Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Nathalie Salmeron au micro pour un nouvel épisode de notre série d'émissions Nos aînés connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans Nos aînés connectés, comme vous avez déjà pu le découvrir au travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Choc FM 105.1, mais aussi présents en ligne sur notre site chocfm.ca et plus récemment en ligne sur différentes plateformes de streaming comme Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast, TuneIn ou iHeartRadio, nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi donc à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Et à travers ce projet Nos aînés connectés, nous voulons également favoriser l'inclusion sociale et réduire l'isolement de ces populations particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre, et ce d'autant plus depuis la pandémie de Covid-19. Alors dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, aujourd'hui nous allons aborder ensemble le thème des fraudes sur Facebook, une fraude qui a tendance à se répandre de plus en plus sur Internet, et ce particulièrement auprès de nos communautés aînées qui apprécient énormément cette plateforme Facebook. En effet, voici donc cette nouvelle arnaque qui devient, comme je vous disais, de plus en plus monnaie courante ici au Canada, mais également un peu partout aux quatre coins de la planète. Toutefois, les fraudeurs ont déjà bien rodé ce système et ces derniers vous envoient des emails pour vous rappeler que votre compte Facebook va être supprimé ou temporairement indisponible. Bref, en gros, que vous avez besoin de l'aide de cette personne pour sauver votre compte Facebook. Le fraudeur, quant à lui, va donc se faire passer pour une personne du service à la clientèle de Facebook et va donc trouver un prétexte pour vous expliquer que ses correspondances doivent rester par email. Ou alors, il va vous donner un numéro de téléphone. Et bien sûr, au bout de la ligne, ce sera un autre fraudeur qui fait également partie du piège. Ces emails, quant à eux, ont l'air totalement légitimes avec le nom d'une personne qui pourrait très très bien travailler chez Facebook. Mais quand on y regarde de plus près, il y a toujours une petite différence, soit un tiret en plus, soit une lettre ou un chiffre qui n'a absolument rien à faire là. Alors restez bien aux aguets lorsque vous recevez un email de la part d'une personne que vous ne connaissez pas et qui vous donne toutefois l'impression d'être un email important, email pour lequel vous devez absolument réagir, bref, une situation d'urgence qui vous tombe sur le coin du nez et que vous n'avez pas vu venir. Mais toutefois, il y a encore plus grave, et c'est ce qu'on va apprendre avec le témoignage de cette personne dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, car une fois que cette fameuse personne du service à la clientèle de Facebook vous tient entre guillemets entre ses mains, elle ne va plus vous lâcher et faire en sorte que vous donniez absolument toutes vos informations dans le but, dans un premier temps, de pouvoir vous identifier et de vous redonner l'accès à votre compte. En réalité, il n'en est rien. Cette personne est juste en train de vous ponctionner toutes vos informations dans le but de s'en servir de manière illégale, bien évidemment. Alors que de votre côté, vous pensiez être en train de régler votre problème, vous êtes en train de vous enfoncer encore un peu plus. Et le problème en général dans ces cas-là, c'est qu'on ne voit pas les signes très distinctifs d'une arnaque. C'est en tout cas ce qu'on peut entendre par la suite dans le témoignage de cette personne qui s'est notamment confiée dans le magazine Vivre Plus de nos amis de La Farfo. Vous allez pouvoir d'ailleurs entendre ce témoignage dans les minutes à suivre. Mais donc cette personne dans son témoignage expliquait justement qu'elle avait l'impression de se sortir de son problème petit à petit en donnant des informations de plus en plus personnelles. Et puis à un moment donné, la personne, le fraudeur, mais cette fausse personne qui se faisait passer pour une personne du service à la clientèle de Facebook, va commencer à demander de l'argent afin qu'on puisse réellement l'identifier. On demande donc à cette personne de faire un virement à une adresse Gmail. Normalement, on devrait logiquement se dire « y a quelque chose de pas net qui tourne ici ». Mais il est vrai que quand on est en plein stress et quand on veut absolument retrouver ses informations et son compte Facebook, des fois on a tendance à réagir bêtement et à ne pas s'écouter et en tout cas ne pas voir les signaux, les red flags comme on dit en anglais, qui nous font penser qu'on fonce tout droit dans une arnaque. Le fraudeur, quant à lui, de son côté, a donc réussi par le biais de ses échanges, que ce soit par email ou par téléphone, à vous toucher, à piquer votre curiosité quant à la suppression de votre compte Facebook et donc à rentrer en contact avec vous et être sûr que vous rentrez à pieds joints dans cette arnaque puisque vous avez déjà commencé à lui donner des informations, voire même faire des virements financiers. Alors donc, comme je vous le disais dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, vous allez entendre le témoignage de cette personne qui a témoigné dans le magazine Vivre Plus, notamment mis en lumière par nos amis de La Farfo. Sachez qu'on a également eu les droits de la part de La Farfo de lire ce témoignage de Madame Lemire. Cette dernière, je le rappelle, a eu le courage de nous raconter cette histoire, car il est vrai que de nombreuses personnes victimes d'arnaques n'osent pas en parler, soit par peur de représailles, ou tout simplement parce qu'ils ressentent une certaine honte d'être tombés dans le panneau. Cette dame, en tout cas, elle a bien voulu partager son histoire. Et puis vous allez voir que grâce à son esprit vif et puis surtout au fait qu'elle a reçu de l'aide de la part d'une personne qui travaillait dans sa banque et qui a donc pu bloquer le fameux virement qu'elle allait faire au fraudeur, eh bien elle a pu éviter de justesse la catastrophe. Mais il me semble que son compte Facebook, quant à lui, était toujours bloqué. Ma foi, entre tomber dans une arnaque à pieds joints et perdre son compte Facebook, je pense qu'on a vite trouvé la réponse à notre question. Alors bon épisode à toutes et à tous et j'espère que ce dernier va pouvoir vous offrir l'occasion de vous sentir un peu plus rassuré face à ces situations parfois compliquées à gérer lorsqu'on n'est pas suffisamment armé et surtout que vous, les auditeurs de Choc FM 105.1, vous allez tous devenir de réels experts 2.0 et puis surtout, et je me permets de rajouter, si jamais vous-même vous êtes dans une situation de crise face à un problème un peu similaire, surtout n'hésitez pas à vous rendre au poste de police pour porter plainte, n'hésitez pas à appeler votre banque pour faire opposition et surtout n'hésitez pas à contacter le Centre antifraude du Canada. C'est grâce aux personnes qui reportent des arnaques que le Centre antifraude du Canada peut lister toutes les arnaques et prendre des mesures pour communiquer et prévenir les personnes, surtout les populations âgées, des fraudes qu'ils peuvent rencontrer sur la toile. Alors encore une fois, bon épisode à toutes et à tous, en espérant que ce témoignage choc vous permette à vous également d'éviter toute arnaque.
Nos aînés connectés, témoignage. Dans le cadre de notre émission Nos aînés connectés, nous allons à la recherche de témoignages de personnes aînées qui ont vécu une fraude. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience de Raymonde Lemire. Son témoignage a été publié dans le magazine Vivre Plus, qui a été publié par La Farfo. Je tiens à préciser que nous avons l'accord de La Farfo pour publier ce témoignage. Facebook, une arnaque inattendue. Une aînée presque fraudée. En décembre, il m'est arrivé une situation inimaginable. Je veux vous la raconter, car j'aimerais que ça puisse mettre la puce à l'oreille à plein d'autres personnes. Le 6 décembre 2023, j'ai reçu 3 courriels de Facebook m'indiquant que quelqu'un m'avait demandé de changer le mot de passe de mon compte. Dans un des courriels, il y avait même un code de vérification. Malheureusement, à ce moment-là, j'étais très malade et je ne surveillais pas mes courriels. Alors, je me suis aperçue de rien jusqu'à ce que quelques jours plus tard, j'essaie d'accéder à mon compte Facebook. Quelle surprise de lire le message « Votre compte a été désactivé ». Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'avais fait sur Facebook pour qu'on annule mon compte ? C'est à ce moment-là que j'ai découvert les courriels de Facebook. J'ai essayé de cliquer sur le lien pour indiquer que je n'avais pas demandé un changement de mot de passe, mais il était déjà trop tard. J'ai tout essayé pour rétablir mon compte. Entre le 7 décembre et le 5 janvier, j'ai envoyé 4 courriels à Facebook, à 4 différentes adresses courriels, mais sans jamais recevoir de réponse ou même un accusé de réception. Alors, j'ai fait une recherche sur Google pour savoir si je pouvais communiquer avec Facebook par téléphone. J'ai trouvé plusieurs références à ce sujet. J'ai choisi une référence sur LinkedIn qui offrait 2 numéros de téléphone pour rejoindre une personne représentante de Facebook. Et c'est là que j'ai eu mon premier signal d'alarme. Je ne trouvais pas de référence dans le centre d'aide de Facebook. Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé qu'une référence sur LinkedIn était sécuritaire ?
Et oui, chers auditeurs, parce que vous sauriez que si jamais vous ne trouvez pas les différentes références dans les emails, c'est-à-dire numéro de téléphone, ou que vous envoyez des emails mais qu'ils restent sans réponse, cela signifie ou peut signifier que vous avez été touché par une fraude. Il est important de noter que les grosses compagnies comme Facebook, Amazon, Instagram ont normalement une grosse équipe qui les aide derrière, surtout pour le service à la clientèle. Et que si vous envoyez, par exemple dans ce cas-ci, 4 emails sans réponse, que vous n'arrivez pas à trouver de numéro de référence, que vous n'arrivez pas à joindre cette compagnie-là, c'est qu'il s'agit sûrement d'une fraude parce que normalement ces compagnies ont un gros service clientèle pour répondre à vos besoins et sont normalement assez réactifs. Alors, qu'est-ce que Raymond Lemire a donc fait ? Elle dit « J'aurais dû faire une vérification plus avancée. J'ai donc décidé d'appeler l'un des numéros de téléphone suggérés. Quelle surprise d'entendre une voix humaine à l'autre bout du fil. Le représentant était bien gentil et il m'a dit qu'il pouvait certainement m'aider à rétablir mon compte Facebook. Oh, que j'étais excitée d'entendre cette nouvelle! Enfin, après un mois, je pourrais retrouver ma famille et mes amis sur Facebook. Mais je ne savais pas que c'était le début d'une arnaque. Je sais que je suis une personne intelligente et je n'ai jamais soupçonné que je serais victime d'une arnaque un jour. Je savais mieux que ça. Cependant, j'étais tellement désespérée de réactiver mon compte Facebook que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. L'erreur que Raymond Lemire a faite est souvent courante, tout simplement parce que lorsqu'il y a une arnaque, les gens ou la personne qui va vous arnaquer va avoir tendance à faire durer la chose pour que vous impatientez et donc du coup, quand il y a une petite lueur d'espoir, vous vous précipitez là-dessus et vous vous faites arnaquer. Soit lorsqu'elle sera au téléphone avec vous ou qu'elle vous enverra des emails, etc., elle poussera pour faire les choses maintenant, tout de suite, et elle vous mettra la pression. Généralement, lorsque vous ressentez ce schéma-là, que vous voyez que soit les choses durent longuement ou que les choses vont très 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 vite, c'est généralement dans ces moments-là que les arnaqueurs vont vous arnaquer parce que du coup, ils essayent en fait d'établir un peu un sentiment d'insécurité, un sentiment de précipitation pour que vous le fassiez maintenant tout de suite. Généralement, ces moments-là, ce sont des arnaques. Après avoir ignoré les signaux d'alarme, Raymond Lemire dit « J'ai poursuivi la conversation avec le représentant. Il m'a posé plusieurs questions pour être en mesure de m'identifier comme étant la bonne personne détentrice du compte Facebook. Ensuite, il m'a indiqué qu'il devait avoir accès à mon cellulaire et à mon ordinateur. Mon ordinateur ? Deuxième signal d'alarme. Alors, je lui ai fourni les renseignements demandés. Quelle erreur est-ce que j'ai faite ? Ensuite, il a insisté pour que je lui envoie un virement bancaire afin de vérifier mon identité. Troisième signal d'alerte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes comme Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, normalement, ne devraient jamais vous demander un virement lorsque vous êtes en demande d'aide pour réactiver un compte ou pour avoir accès à votre compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes sont gratuites, donc il n'y a pas de question de payer, sauf si vous devez faire du marketing et que vous devez promouvoir des posts Instagram ou Facebook, mais sinon, autre que ça, il n'y a pas de raison pour lesquelles Facebook vous demanderait de faire un paiement, un virement bancaire pour vous identifier et pour être certain de votre identité. Cela n'arrive absolument jamais, donc si c'est le cas, ça veut dire que c'est une fraude, c'est sûr et certain. Donc dans le témoignage de Raymond Lemire, il y a trois signaux d'alarme, donc à noter et à bien se souvenir. Donc le premier, c'est qu'elle ne trouvait pas la référence dans le centre d'aide de Facebook. Le deuxième, c'était qu'on lui a demandé un accès à son cellulaire et à son ordinateur. Et le troisième, c'est qu'on lui a demandé de faire un virement bancaire pour vérifier son identité. Ces choses-là ne devraient jamais arriver. Alors après ce troisième signal d'alarme, Raymond dit « Ce versement était au montant de 1998 $ et je devais l'envoyer à une adresse Gmail. » Encore un autre signal d'alarme, pourquoi pas une adresse Facebook ? Donc là, on voit bien un exemple parfait d'une belle arnaque Facebook, d'une belle fraude. Demander 1998 $ pour pouvoir vérifier votre identité, c'est complètement une fraude. Premièrement, il n'y a pas de raison pour lesquelles Facebook vous demanderait de payer. Deuxièmement, une somme aussi importante devrait absolument vous mettre la puce à l'oreille. Et troisièmement, de faire un virement sur une adresse Gmail et pas Facebook ou pas quelque chose en lien avec Facebook. Donc par exemple, mettre votre carte sur la plateforme en tant que telle ou quelque chose comme ça, ça montre que c'est vraiment une arnaque et qu'il faut faire attention parce que vous allez tomber dans un piège. Ce qui est aussi important, c'est que si à partir du moment où vous faites ce virement bancaire-là, si vous le faites, l'argent est parti. Donc c'est-à-dire que après, ça va être très compliqué pour vous de récupérer cet argent si vous avez affaire à un fraudeur. Alors, Raymond continue son histoire et dit « J'étais tellement surprise par le fait de retrouver ma page Facebook que j'ai ignoré tous ces drapeaux rouges. » Ce qui m'a sauvée, c'est que ma banque a vite réagi à la situation. Quand la commis a vu la transaction, elle m'a appelée tout de suite et m'a informée que c'était une arnaque et que je devrais arrêter toute communication avec ce représentant. C'est ce que j'ai fait. Bref, j'avais enlevé mon chapeau de bon sens et j'étais aveuglée par mon besoin désespéré de récupérer ma page Facebook. J'étais gênée, je ne voulais pas parler de mon expérience à personne, ce qui n'est pas la chose à faire. Il est très important que nous partagions nos expériences pour pouvoir en discuter, analyser la situation et aller chercher de l'aide dont on a besoin. Si vous êtes aux prises avec une arnaque, s'il vous plaît, parlez-en aux personnes autour de vous. À ce jour, mon compte Facebook n'est toujours pas rétabli. Saga à suivre. Nous avons là un bel exemple d'arnaque Facebook ou sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui travaille à Facebook ne devrait jamais vous demander de faire un virement bancaire, encore plus pour vérifier votre identité. Ça n'a pas de sens. Peut-être que normalement, en temps normal, généralement, pour vérifier votre identité, vous allez soit recevoir un code de vérification, soit vous allez recevoir, quand vous allez activer votre compte, vous allez devoir mettre des questions ou vous seul avez les réponses et donc vous allez devoir répondre à ces questions-là. Ça, c'est possible, mais par contre, un virement bancaire, pas du tout. Personnellement, je trouve que le message de Raymond à la fin de son témoignage est très pertinent. Lorsque vous êtes victime de fraude telle que cette fraude Facebook, ne soyez pas gêné, ça arrive beaucoup plus que vous ne le pensez. Témoignez, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos proches, pour qu'ils soient au courant et pour éviter que eux aussi tombent dans le panneau un jour, parce que ça risque de leur arriver. Ça arrive au quotidien. Moi, par exemple, sur mon téléphone, je reçois des appels ou des messages textes presque au quotidien de scams, de fraudes, me disant que ma carte a été désactivée ou que j'ai besoin de joindre ma banque, etc., etc. Donc c'est vraiment important que vous témoigniez, que vous en parliez autour de vous pour que ces arnaques n'arrivent plus et pour que ces arnaqueurs arrêtent pour de bon. Alors la radio communautaire francophone Choc FM 105.1 tient à remercier le magazine Vivre Plus de la Farfo avec ce témoignage de Raymond Lemire intitulé « Une aînée presque fraudée » si jamais vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Restez prudent, alerte aux arnaques et méfiez-vous de tout. Vaut mieux dans ces cas-là être trop prudent que pas assez parce que ça va vous éviter de vous faire arnaquer et de perdre des sommes importantes d'argent.
Nos aînés connectés, le point de vue de l'expert.
Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin dans l'émission Nos aînés connectés avec aujourd'hui une invitée spéciale sur le thème des personnes âgées face aux fraudes en ligne au Canada et un volet porté sur la prévention. On va voir avec mon invitée comment éviter les pièges, éviter de s'exposer peut-être en amont avant que les fraudes n'arrivent, comment se protéger et comment protéger aussi ses proches. Mon invitée, c'est la fondatrice et directrice de Tech for Good Canada, technoéthique en français, Caroline Isotier. Bonjour Caroline.
Bonjour Guillaume.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien. Et toi?
Ça va très bien, c'est un grand plaisir de te retrouver. On rappelle que tu as également une émission derrière nos écrans sur les ondes de Choc FM 105.1 qui fait le point sur les questions qui t'intéressent en particulier avec Tech for Good Canada, mais tu vas les expliquer mieux que moi. Tu es une activiste en quelque sorte dans la bonne utilisation du numérique et aujourd'hui, je crois que tu t'intéresses également à une bonne utilisation en termes de développement durable, sustainability, comme on dit en anglais.
Oui, tout à fait. Tech for Good Canada est une OBNL, une organisation à but non lucratif qui a été créée il y a quelques années pour éduquer et pour promouvoir ce que j'appelle le numérique durable. Et par durable, j'entends le côté durable d'un point de vue social, sociétal, donc bon pour nous, pour nos démocraties et pour notre santé mentale, et durable pour l'environnement, donc nos écosystèmes. Et c'est vrai que autant il y a 4 ans, quand Tech for Good Canada a été créé, je me focalisais beaucoup sur les aspects addiction numérique, ouais. Et également protection de la vie privée en ligne. Autant récemment, j'ai découvert 2 ateliers qui viennent de France et qui sont vraiment très intéressants, que j'ai commencé à proposer ici au Canada anglophone, à Toronto notamment, et qui s'appellent la fresque du climat et la fresque du numérique. Ces oui. 2 ateliers complémentaires, en effet, s'intéressent à l'impact environnemental. La fresque du climat, il parle du changement climatique en général, mais c'est le préalable pour ensuite parler de l'impact qu'a le numérique sur notre environnement, parce que même si on le présente comme étant très virtuel, hein, on nous parle de cloud, de nuages, des choses comme ça. Derrière l'industrie numérique, il y a vraiment beaucoup d'industries. Il y a de la fabrication, il y a de l'électricité pour les data centers, il y a de l'eau pour refroidir les data centers. Donc, ça n'a absolument rien de virtuel. Et au moment où on pousse cette industrie comme étant le Graal et en partie ce qui va nous sauver du changement climatique, il est important de sensibiliser à comment développer un numérique durable, donc qui ne va pas répéter les erreurs du passé et extraire, par exemple, des métaux rares du sol pour soutenir son développement effréné. Voilà.
Ah oui, des thématiques qu'on entend encore trop rarement développées dans les médias, en effet, et il y a bien un pendant très concret au numérique et un pendant sur notre planète, sur notre environnement qu'il faut avoir en tête, même si beaucoup présentent le numérique comme effectivement une solution à tous les maux, ça ne va pas parfois sans aussi des problèmes. Mais aujourd'hui, on est là davantage pour parler de cette thématique des fraudes en ligne et des fraudes d'une manière générale financière en particulier, pour les personnes aînées au Canada, qui sont malheureusement bien souvent cibles privilégiées des fraudeurs. Qu'est-ce que t'évoque cette thématique en 2 mots par rapport à ton expertise justement du numérique et ta connaissance des bonnes manières, des bonnes méthodes pour bien utiliser le numérique ?
Alors, c'est en effet un sujet très pertinent. On parle aussi d'inclusivité et d'accessibilité du numérique. En fait, ça rejoint cette thématique-là. Moi, c'est vrai qu'avec Tech for Good Canada, je me suis beaucoup intéressée à une autre partie de la population qui est moins bien armée contre le numérique, contrairement, encore une fois, à ce qu'on peut croire que nous, ce sont les plus jeunes, les enfants et les adolescents, parce que ils sont, comment dire, tellement happés par le numérique qu'ils n'ont pas la distance que nous on a adultes pour limiter leur consommation et pour éviter les arnaques aussi, parce qu'ils sont victimes d'arnaques régulièrement. Les aînés, c'est un sujet que je suis, mais un peu moins de près que tout ce qui est jeune. Mais évidemment, il y a des bonnes pratiques que je connais et dont on peut parler concernant les aînés sur le numérique. Et notamment, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de prévenir plutôt que guérir. Et donc, le terme que j'utilise, c'est d'éduquer un maximum de personnes à avoir une hygiène numérique, tout comme on a une hygiène physique. On n'a pas eu le temps.
On revient vers les questions d'addiction. On peut penser effectivement au numérique. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui sont un petit peu plus connus, mais une hygiène du numérique, ça passe aussi par une bonne utilisation et une bonne connaissance des limites et des fraudes qui peuvent exister.
Des limites et des fraudes, et aussi tout simplement une compréhension du besoin de se protéger en ligne. C'est-à-dire qu'on nous encourage tous les espaces numériques, notamment les médias sociaux, hein, les Instagram, les Facebook, pour les plus âgés, nous encourage à nous exposer, puisque plus on s'expose, plus ça fait du clic. En fait, on remarque qu'entre une photo, je ne sais pas moi, de tout ce qui peut être nature et une photo de nous, d'une personne, le taux de réaction va être très supérieur si c'est une personne qui est mise en photo. Et donc, ces médias sociaux qui vivent du temps qu'on passe sur leur support, et puisqu'ils vendent de la pub pendant qu'on passe du temps sur ces supports, nous encouragent à nous dévoiler. Et également, ces médias sociaux revendent nos données, les recyclent, on pourrait dire, sauf qu'ils les recyclent en se faisant payer. Et donc, plus on lâche de données sans s'en rendre compte, hein, tout simplement en interagissant, plus ils gagnent de l'argent. Et donc, une partie de l'hygiène numérique, c'est tout comme on évite de diffuser son numéro de téléphone ou ses photos personnelles dans la rue, eh bien, c'est de faire pareil en ligne, en fait. C'est d'éviter de diffuser des images personnelles, soit de soi, mais surtout, si on revient aux aînés, de ses enfants et de ses petits-enfants, sur les médias sociaux, même si on est très fiers d'eux. Parce que malheureusement, ce qui est sur Internet n'est pas protégé aujourd'hui. Même si on est en mode privé, même si on sait comment protéger notre profil sur Facebook, ce que peu de gens savent, mais disons que la personne sait être en mode privé, ces données ne sont pas sûres, que ce soit un hacker ou que ce soit la société elle-même, les images peuvent fuiter. Et aujourd'hui, avec l'IA, si on rentre dans un usage bien concret d'arnaque qui peut être fait de ces photos qu'on a, sans s'en rendre compte, diffusées de nous-mêmes ou de notre famille sur Internet, eh bien, avec l'IA générative aujourd'hui, hein, le chat GPT...
L'intelligence artificielle, là, pour nos auditeurs...
Ce qu'il faut juste préciser, c'est que l'IA ou intelligence artificielle se développe depuis plus de 10 ans sans aucun souci. Ce qui a été révolutionnaire, c'est ChatGPT qui a donné au grand public une IA générative qui permet de créer des textes à la volée, et surtout son petit frère ou son petit cousin, dont le nom m'échappe à l'instant, mais c'est une IA générative qui permet de créer des visuels.
Ouais, le Midjourney, je crois que c'est ça.
Voilà, Midjourney. Tu rentres dans Midjourney, fais-moi une image d'une personne de tel âge en train de comme c'est l'automne, en train de ramasser des feuilles dans son jardin, eh bien Midjourney est de tel type de personne, tel cadre, tel pays. Midjourney va faire de son mieux, plus ou moins bien, mais va te générer une image. La bonne hygiène en ligne, c'est la même que hors ligne, c'est ne pas diffuser vos informations personnelles, aussi difficile que ça puisse sembler. Et si tu veux par rapport à simplement parler de se prémunir contre les arnaques, on pourrait parler de comment on peut diffuser des informations personnelles de façon sécurisée, mais en tout cas, la façon non sécurisée, c'est via Instagram, Facebook, même, je t'avoue que WhatsApp est très utilisé.
Oui.
Par notamment par les groupes familiaux pour échanger des images entre eux, et c'est très apprécié, hein. C'est une façon de rester en contact avec les proches à distance, surtout pour les gens qui nous écoutent. Ils ont sans doute une partie de leur famille à l'autre bout du monde. Mais WhatsApp appartient au groupe Meta, Facebook, et les pratiques en matière de vie privée de Meta ne m'incitent pas du tout à faire confiance à Meta. C'est-à-dire que je ne peux pas garantir que Meta n'utilise pas ces images, même si Meta indique qu'il vous dit toujours sur WhatsApp, votre communication est encryptée de bout en bout. Alors ça, c'est super impressionnant. Ah, c'est encrypté, aucun hacker ne peut rentrer. Mais certes, alors aucun hacker extérieur, c'est possible, ne peut rentrer, on l'espère, hein, bien que rien n'est pas hackable sur Internet, ça, il faut le savoir. Tout est hackable, mais bon, disons que ce soit pas quelqu'un de l'extérieur, mais le pire, c'est que le loup est dans la bergerie, c'est-à-dire que c'est Meta eux-mêmes qui sont dangereux.
Alors, j'aimerais bien qu'on développe un petit peu ces questions qui sont brûlantes d'actualité. Je sais qu'en Europe, des lois ont été mises en place pour limiter, justement, pour empêcher certains grands médias sociaux de capter et de revendre des données personnelles, ce qui est contraire désormais à la loi européenne. C'est pas encore le cas ici, de ce côté-là de l'Atlantique, au Canada en particulier. On voit fleurir sur les réseaux sociaux des messages de gens qui prétendent, plutôt qui affichent le fait de ne pas vouloir partager leurs données personnelles avec Meta et de ne pas donner leur autorisation, leur consentement. Je crois, tu me diras si je ne m'abuse, que ce type de publication est absolument sans fondement juridique, ne sert absolument à rien. Parce qu'il y a des conditions, il y a des conditions particulières que personne ne lit jamais, qui renferment ces fameuses clauses dans lesquelles vous vous engagez finalement à partager ouais. avec Meta toutes vos données, et Meta peut ensuite, Meta dans ce cas-ci, mais d'autres géants aussi. Du web peuvent aussi en faire ce qu'ils veulent, et donc c'est à la fois pas véritablement une fraude, c'est entre guillemets légal, mais ce que vos données deviennent ensuite peut devenir sujet de fraude. On ne sait pas très bien à qui ces données ont été revendues.
Oui, c'est ça. Et en effet, c'est une fraude diffuse par rapport aux épisodes précédents où tu parlais vraiment de fraude visant à soutirer de l'argent directement. Là, c'est un peu un mensonge diffus, c'est-à-dire qu'on te fait croire que tu peux protéger tes données, mais elles ne sont pas protégées, puisque la seule chose qui te protège, en effet, c'est la loi, et la loi européenne, comme tu le dis. C'est le seul pays, le seul continent qui essaye de tenir tête aux GAFAM aujourd'hui. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et à tel point que, pour faire suite à ce que tu disais sur la nouvelle loi européenne, il y a le DSA et le DMA, c'est que Facebook a dit « Oh ben, si vous m'interdisez de vendre les données que je récupère des utilisateurs, je vais facturer l'abonnement Instagram ou Facebook, je ne me souviens plus, un des deux ou les deux. »
Les deux, je crois, oui.
Ouais, aux utilisateurs européens pour compenser le manque à gagner que j'ai sur leurs données par ailleurs.
Et on a vu le vieux slogan de Facebook, Facebook c'est gratuit et ça le restera toujours, disparaître de Facebook.
Ouais.
Et on a souvent dit dans cette émission, on a répété le vieil adage que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, on voit bien qu'en effet, c'était véritablement aux yeux du monde entier qu'effectivement, si vous refusez d'être le produit, ben, vous allez devoir payer.
Oui, ouais, tout à fait.
Alors, pour terminer, Caroline, et pour terminer sur peut-être une note un petit peu moins, pour pas faire peur à nos auditeurs malgré tout, comment est-ce qu'on peut imaginer, envisager d'encourager l'inclusion numérique des personnes âgées tout en minimisant les risques de fraude en ligne?
Je t'avoue que c'est vraiment une très grande question. J'aimerais bien y contribuer avec Tech for Good Canada, mais j'avoue qu'on n'a pas d'atelier à l'attention. Pour moi, c'est une question d'éducation. Malheureusement, c'est ce que tu fais là. Ce qu'on peut faire avec tes ateliers grand public, qu'il y a à la bibliothèque de Toronto, hein. Il y a dans les bibliothèques des ateliers qui éduquent à la prise en main du numérique avec, j'espère, un côté cybersécurité ou vie privée. Et sinon, voilà, dites-vous que vous utilisez des outils privés, gérés par des compagnies privées qui n'ont pas la protection de vos intérêts personnels et de votre vie privée à cœur, surtout si vous ne payez pas, puisque elles, dites-vous qu'elles ont besoin de payer leurs employés et que donc c'est avec vos données qu'elles vivent. Si par contre c'est un service payant, là, on peut espérer qu'elles n'utilisent pas vos données, mais il faut le vérifier. Et voilà. Sinon, par exemple, sur Tech for Good Canada, j'essaie régulièrement de faire des articles des meilleurs. Ce qu'on a fait ensemble, on a parlé de Proton, de Signal. J'essaie régulièrement de faire une liste des outils que je considère moi comme protecteurs de la vie privée et de la sécurité, parce qu'on a vu le lien entre vie privée et la sécurité des individus. J'essaie de voir si, j'imagine que tu vas parler des ressources gouvernementales, mais qui
Oui.
sont plus ou moins accessibles. Enfin voilà, le problème, c'est qu'on est aujourd'hui encore 25-30 ans après la sortie de ces nouveaux médias et l'éducation n'a pas encore touché assez de monde pour qu'on soit vraiment tous bien informés et bien protégés. Et parallèlement, on l'a vu, les lois n'ont pas encore rattrapé le développement du numérique pour imposer aux acteurs du numérique d'être plus précautionneux. En fait, on en est au niveau où on a inventé la voiture et ça a pris 60 ans avant que les ceintures de sécurité soient obligatoires.
C'est ça.
Voilà, on en est là.
J'aime bien l'analogie. J'avais peur que tu dises qu'on n'a pas inventé les freins, mais c'est presque ça. En tout cas, Caroline, on va donner à nos auditeurs le lien Internet pour en savoir plus sur Tech for Good Canada et retrouver les articles que tu mentionnais avec justement des listes très concrètes qui vont vous permettre peut-être de mieux vous armer et de mieux vous protéger en ligne. Techforgoodcanada.com, c'est bien ça?
C'est bien ça, ouais.
Et puis, on peut aussi ajouter dans les ressources le Centre Antifraude Canada, où effectivement le gouvernement rassemble un certain nombre de données pertinentes sur le sujet. On en a déjà parlé au cours de cette émission. Antifraude Center-centreantifraude.ca. Caroline, merci beaucoup de t'être prêtée à cette émission Nos Aînés Connectés. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs?
Non, j'étais en train de je cherchais un autre site, mais il est beaucoup plus généraliste, hein. Il y a le site québécois qui s'appelle protégez-vous.ca, qui est à l'origine, je crois, une association de consommateurs et qui peut être une bonne ressource, comment dire, parfois plus facile à digérer que les ressources gouvernementales pour vous, mais qui est plus large que juste le numérique, qui va vous permettre de vous protéger en général en tant que consommateur. Voilà.
Merci beaucoup, Caroline Isotier, fondatrice et directrice de Tech for Good Canada, techno-éthique en français. Merci d'avoir participé à cette émission Nos aînés connectés sur Choc FM 105.1.
Merci beaucoup.
Et voilà, vous avez donc pu découvrir notre nouvel épisode de cette série d'émissions Nos aînés connectés, qui, je vous le rappelle, avait pour aujourd'hui les arnaques sur Facebook. Alors encore une fois, les auditeurs de Choc FM 105.1, restez bien aux aguets, surtout lorsque vous recevez des messages par courriel de personnes inconnues. Ça se peut également que vous ayez des soucis avec votre compte Facebook, mais n'hésitez pas à essayer de vous connecter via d'autres moyens. Alors essayez avec votre téléphone, votre ordinateur, l'ordinateur d'une amie. Si vous voyez que votre compte est réellement bloqué, oui, effectivement, il y a peut-être un problème, mais si vous voyez que vous avez totalement accès à votre compte et que cet email est donc probablement une fraude, vaut mieux l'effacer et le jeter à la poubelle. Ça vous évitera la tentation de cliquer sur un lien qui pourrait être malveillant. Car en effet, des fois dans ces emails, on vous dit « votre compte est bloqué ». Alors forcément, on vous appelle à l'action, que ce soit en cliquant sur un lien donné par cet expéditeur inconnu ou alors de communiquer avec un fameux service à la clientèle qui vous attend pour régler votre problème. En fait, en réalité, au bout de la ligne, c'est juste une équipe de fraudeurs qui attendent que vous tombiez dans le panneau et que vous composiez ce numéro de téléphone et donc que le piège se retombe sur vous. Parce qu'au téléphone, il est facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et avec notamment maintenant l'utilisation des intelligences artificielles, il est très facile de copier la messagerie d'un grand groupe comme Facebook. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches personnelles et si vous avez besoin de contacter Facebook, allez vous-même sur Google et tapez votre recherche et appelez uniquement le numéro qui ressortira de cette recherche et non pas un numéro que vous suggérez un inconnu dans un email provenant également d'une source inconnue. Donc je sais que dans chaque épisode de Nos Aînés Connectés, j'ai tendance à me répéter, mais j'en profite à chaque fois pour vous rappeler qu'il est vraiment, vraiment très, très important de ne jamais, jamais cliquer sur des liens qui vous ont été envoyés par des destinataires inconnus et surtout de ne pas céder aux pressions en ce qui concerne d'éventuelles situations d'urgence imaginaires. En effet, même si votre compte Facebook était bloqué, je pense que ça ne changera pas la face du monde. Donc, vaut mieux prendre des fois un peu plus son temps et s'entourer de personnes qui vont pouvoir vous conseiller pour de vrai plutôt que de sauter à pieds joints dans un piège et de vous retrouver dans une situation bien plus compliquée où on risque au passage de vous voler vos informations personnelles et peut-être une belle somme d'argent également. Et puis surtout maintenant les auditeurs de Choc FM 105.1, vous commencez à connaître un petit peu les conseils que je donne à chaque fois à la fin de chaque épisode. Il y en a bien un qui est très important également, c'est de parler de ce qui vous arrive autour de vous. On le dit à chaque fois, mais je me répète, c'est important parce que des fois, on a honte, on a peur des représailles. On pense aussi peut-être qu'on nous prend pour des personnes un peu gaga, qui n'arrivent plus à prendre soin d'elles, qui n'arrivent plus à prendre soin de leur compte en banque. Il n'en est rien. Sachez que tout le monde peut avoir un moment de faiblesse et cliquer sur un lien où on ne devrait pas. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à parler de ce qui vous arrive. Ça se peut que ce soit une situation très normale et que vous ayez juste la puce à l'oreille parce que vous trouvez ça un peu bizarre. Ou alors, au contraire, que vous ne trouviez pas que la situation soit bizarre, mais que vous êtes en train, doucement mais sûrement, de tomber dans un piège. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous, que ce soit des amis, un voisin, des personnes de confiance, un collègue de travail, une personne de votre résidence. Bref, n'hésitez pas surtout à passer le mot. C'est des fois en parlant à haute voix et en disant ce qui se passe qu'on se rend compte qu'on est en train de tomber dans une arnaque. Donc vraiment, c'est très important d'en parler. Et je répète encore une fois, si jamais vous avez besoin de reporter cette fraude, n'hésitez pas non plus à vous retourner vers le Centre Antifraude du Canada. Ils seront ravis de pouvoir prendre votre témoignage et ainsi peaufiner leur liste des arnaques les plus fréquentes au Canada. Et eux, de leur côté, après, ils peuvent communiquer et s'assurer que ces arnaques font le moins de victimes possible. Alors, chers auditeurs de Choc FM 105.1, si ce nouvel épisode de l'émission Nos Aînés Connectés a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeurs 2.0, eh bien, sachez que je suis ravie. Et puis surtout, si vous ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'une arnaque en tout genre sur Internet, n'hésitez pas à venir partager votre histoire avec nous. On sera toujours ravis de mettre en lumière votre histoire et puis surtout, on prendra le temps de prendre de vos nouvelles et nous assurer que tout va bien pour vous aujourd'hui. Alors merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés. Je rappelle que ce projet est financé en grande partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et que tous nos épisodes sont diffusés les mardis à partir de 18h. Mais sachez que vous pouvez également retrouver tous les épisodes de la série Nos Aînés Connectés sur notre site chocfm.ca ou également maintenant sur la plupart des plateformes de streaming comme Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, TuneIn, Heart Radio. Donc vous n'avez aucune excuse pour rater les épisodes de votre émission sur la cybercriminalité. Merci encore à toutes et à tous. C'était Nathalie Salmeron, comme d'habitude avec vous. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos Aînés Connectés sur les ondes de Choc FM 105.1, votre radio francophone préférée ici à Toronto.
Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.